Il est 16h à Paris, 15h en temps universel. C'est l'heure du journal présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. À la une, difficile d'imaginer une réconciliation entre les États-Unis et l'Ukraine après les propos incendiaires de Donald Trump. Pourtant, l'émissaire américain Keith Kellogg rencontre le président ukrainien en ce moment même à Kiev. L'atmosphère promet d'être glaciale. L'Europe, elle, tente de se fédérer pour peser face au tête-à-tête américano-russe. La base militaire ivoirienne de Port-Boué n'appartient plus désormais à la France. Une cérémonie de rétrocession a eu lieu ce matin. Franck Alexandre y était. Il nous racontera une passation de pouvoir dans un climat de concorde. Et puis l'Assemblée française a approuvé définitivement une proposition de loi écologiste restreignant la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS. Ces polluants éternels, une première dans l'Union européenne. Pour le moment, rien n'a filtré sur la teneur de l'entretien entre le président ukrainien et l'émissaire américain à Kiev. Mais difficile d'imaginer une ambiance détendue entre les deux hommes, tant les déclarations de Donald Trump, qui reprend les thèses du Kremlin, ont provoqué l'indignation. Le président ukrainien est un dictateur, selon le locataire de la Maison-Blanche, car l'élection présidentielle n'a pas pu se tenir l'an dernier en pleine guerre, qui a fait responsable du déclenchement de la guerre alors que la Russie a envahi l'Ukraine. Une conférence de presse est prévue entre Volodymyr Zelensky et Keith Kellogg dans l'après-midi. Face à la charge américaine, l'Europe tente de faire entendre sa voix. L'Ukraine est une démocratie, la Russie de Poutine non, rappelle la Commission. En signe de solidarité, Antonio Costa se rend à Kiev lundi prochain, le président du Conseil européen aux côtés de la chef de l'exécutif Ursula von der Leyen, le 24 février doit, soit trois ans, jour pour jour, après l'invasion russe de l'Ukraine. On écoute Antonio Costa.
Je serai en Ukraine lundi prochain. La présidente de la Commission européenne sera là lundi prochain. Le collège de commissaires sera là lundi prochain pour réaffirmer tout notre support à l'Ukraine. Comme on l'a fait dès les vrais premiers jours de la guerre, comme on l'a maintenu pendant ces trois ans, et comme on la gardera en quelques circonstances. Si malheureusement la guerre poursuit, si comme tous on désire, on arrive à la paix, et surtout après, parce que le futur de l'Ukraine, c'est d'ici à l'Union européenne.
Antonio Costa interrogé par Caroline de Camaret. Un entretien à écouter en intégralité demain dans Ici l'Europe à 19h10, temps universel. Emmanuel Macron continue à rester à la manœuvre sur le dossier pour tenter de fédérer les Européens. Deux réunions organisées à l'Élysée cette semaine avec des dirigeants des 27 et leurs alliés au sein de l'OTAN. Aujourd'hui, le président français a reçu les chefs de parti à l'Assemblée pour faire le point. Il est attendu à Washington la semaine prochaine, peut-être dès lundi, selon le président américain, avec un objectif, ne pas rompre le contact avec Donald Trump malgré la crise. Emmanuel Macron qui répond en direct sur ses réseaux sociaux à partir de 17h30, temps universel, à des questions des Français concernant la Russie, l'Ukraine et la sécurité de l'Europe, selon ses termes. C'est une journée de deuil en Israël. Les dépouilles des 4 otages rapatriés de Gaza reposent désormais à l'Institut médical de Tel Aviv. Les corps seront autopsiés, même s'il n'y a pas vraiment de doute sur leur identité. Ce matin, des combattants cagoulés et armés du Hamas ont exposé sur une scène à Khan Younes en public 4 cercueils noirs portant chacun la photo d'un des otages, dont celle d'Ariel et Kfir Bibas, âgés respectivement de 4 et 8 mois et demi le jour de leur enlèvement le 7 octobre 2023 et de leur mère, Shiri Bibas. Le père des deux enfants, Yarden Bibas, avait été libéré le 1er février. Les corps ont été restitués en échange de la libération prévue samedi de Palestiniens détenus par Israël. Le drapeau ivoirien flotte seul désormais au-dessus de la base militaire de Port-Boué près d'Abidjan. Celui de la France a été abaissé. La cérémonie de rétrocession a eu lieu ce matin. Elle s'est déroulée dans un climat détendu car il s'agit d'une démarche concertée. Nouvelle étape de la reconfiguration militaire française en Afrique qui ne reposera plus sur des bases permanentes. Franck Alexandre a assisté à la passation de pouvoir.
Et la première étape de cette rétrocession ce matin du camp militaire de Port-Boué s'est jouée à l'entrée du camp où les militaires français de garde ont cédé leur place à l'armée ivoirienne. Image bien plus que symbolique, puisqu'elle scelle le contrôle par la Côte d'Ivoire de ce camp militaire français historique qui, des décennies durant, a épousé les contours de l'histoire ivoirienne. Roulement de tambour sur la place d'armes, sous le regard des ministres ivoiriens et français de la Défense et des plus hautes autorités militaires, le chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill, est présent ce matin ici à Port-Boué. Date importante d'une mutation de la présence française amorcée il y a déjà quelques mois. Mutation qui ne signifie pas un départ français. Les autorités ont loué l'excellence du partenariat militaire franco-ivoirien. Au gré des formations et des exercices, des soldats français seront donc toujours régulièrement présents en petit nombre et pour de courtes missions à Port-Boué, camp militaire désormais pleinement ivoirien. Franck Alexandre, Port-Boué, RFI.
En France, l'Assemblée nationale a approuvé définitivement à la mi-journée une proposition de loi écologiste sur les polluants éternels, quasi indestructibles et présents dans quantité d'objets et de produits. Ils s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, l'eau, la nourriture et in fine dans le corps humain. Soutenu par la gauche et la coalition gouvernementale, le texte a été approuvé par 231 voix contre 51. Pauline Glaise revient sur le contenu de la loi.
Dès l'an prochain, la fabrication, l'importation et la vente de cosmétiques, de vêtements et de chaussures qui contiennent des PFAS seront interdits. Interdiction qui sera étendue en 2030 à l'ensemble des textiles, y compris les tissus d'ameublement donc. En revanche, bien qu'il existe des alternatives à ces polluants éternels pour les ustensiles de cuisine, les poils antiadhésifs ont été retirés du texte il y a quelques mois après une campagne d'un groupe industriel. Au-delà de ces restrictions, la loi imposera de contrôler la présence de polluants éternels dans l'eau potable. La France ira au-delà de la réglementation européenne en ce sens. Surtout, le bilan des analyses des eaux, y compris de l'eau en bouteille, devra être publié chaque année. Et Paris devra établir une trajectoire nationale de réduction de certains rejets de PFAS par les industries. Des entreprises pourraient devoir mettre la main au portefeuille. Le principe de pollueur-payeur est inscrit dans la loi avec une redevance liée au rejet de PFAS dans l'eau. Objectif, que les industriels à l'origine de la pollution contribuent financièrement à la dépollution. Dépollution dont les coûts s'annoncent faramineux.
Dernière ligne droite avant les élections en Allemagne, un scrutin crucial dimanche. Les conservateurs sont en tête des sondages. L'extrême droite pourrait faire un score historique et arriver en deuxième position. Lors du dernier débat télévisé hier soir, le chef de la CDU, Friedrich Merz, a appelé les Allemands à lui donner un mandat fort pour réformer le pays et contrer l'ascension de l'AfD, une campagne marquée par les ingérences des États-Unis. Le parti d'extrême droite d'Alice Weidel a reçu le soutien très appuyé du vice-président américain J.D. Vance. Au Canada aussi, la nouvelle administration américaine pèse de tout son poids. Le retour de Donald Trump a d'abord complètement modifié la course à la succession du Premier ministre Justin Trudeau. Les intentions de vote pour des élections qui auront lieu sans doute à la mi-mars ont ensuite été bouleversées. Jusque-là, le Parti conservateur profitait d'une avance considérable, une avance qui a depuis fondu. La correspondance de Pascal Guéricola.
Le nationalisme canadien a le vent dans les voiles depuis les menaces de Donald Trump, une aubaine pour le Parti libéral plus associé à ce courant. Mark Carney, un candidat pressenti pour succéder à Justin Trudeau, met en avant ses qualités de négociateur avec le président américain. Lui qui était à la tête de la Banque d'Angleterre durant le Brexit et à celle de la Banque du Canada lors de la crise financière de 2008. Son adversaire conservateur ne dispose pas de cette expérience en ces temps économiques troublés. Et Pierre Poilievre peine à s'adapter aux changements actuels de la politique. Son discours a longtemps reflété celui du président américain, notamment sur la gestion laxiste de la frontière avec les États-Unis. Et sa tendance à insulter ses adversaires rappelle justement le style agressif de Donald Trump. Même son plus récent slogan, le Canada d'abord, semble calqué sur le America First du locataire de la Maison-Blanche. Un rapprochement pas très payant actuellement au Canada en termes d'intention de vote. Pascal Guéricola, Québec, RFI.